Alors Lavalette, 47 ans, député du Var, est devenue une des personnalités politiques incontournables du Rassemblement National. Découverte par le grand public lors de la dernière élection présidentielle,
certainement pas vos avec la France politique. Insoumise, c'est plus de cannabis, moins de police.
Lavalette s'est forgée une solide réputation de puncheuse sur les plateaux télé comme à l'Assemblée Nationale.
Hier, permettez-moi de faire le point sur votre travail. Chaos au Stade de France, mensonge d'État sur les supporters anglais, explosion des atteintes aux personnes, pire chiffre sécuritaire depuis des décennies. Humiliation par un imam étranger.
Pour VA+, elle revient sur son parcours politique, sa foi, sa vie de mère de famille et les défis de demain pour reconstruire la France après les récentes émeutes.
Bonjour Lavalette.
Bonjour Antoine.
Merci d'être sur VA+.
Merci à vous.
Vous êtes députée au Rassemblement National du Var depuis juin 2022. Alors la classe politique et l'opinion publique vous découvrent à partir de l'élection présidentielle, mais en réalité vous êtes engagée depuis toujours.
Ouais.
Conseillère municipale, conseillère régionale. Est-ce que pour commencer vous pouvez nous raconter comment vous êtes devenue progressivement la porte-parole de Marine Le Pen?
J'étais déléguée de classe d'ailleurs avant aussi.
C'est vrai,
ça commence comme ça, ça commence comme ça la recherche du bien commun. En fait, effectivement, j'ai même été élue à la faculté, figurez-vous, à la faculté de droit de Bordeaux, où j'ai représenté mes petits camarades pendant 4 ans. J'étais la déléguée de classe de l'UFR. Et ensuite, voilà, j'ai croisé l'amour, je suis partie à Toulon et j'ai remis un peu le pied en selle en 2012, un peu avant les municipales toulonnaises. Du coup, conseillère municipale, conseillère communautaire. Et ensuite, en fait, j'étais un peu sous les radars parce que j'ai quand même eu 5 enfants en 7 ans. Et ça m'a pas mal occupée. Donc, j'allais moins à Paris. J'allais pas les grands raouts, les universités d'été, tout ça. Je trouvais que voilà, ma place était plutôt auprès de mes enfants. Et donc, j'étais un peu sous les radars. Et c'est vrai que quand on a fait...
2014
Alors, 2014, je suis élue aux élections municipales, à la communauté d'agglo. Voilà, mais je fais mon petit taf tranquillou, bilou. Après, donc, les municipales d'après, repartent, il y a les sénatoriales et les départementales derrière.
Ouais.
Et du coup, je suis deuxième au sénatorial, deuxième sur la liste des départementales derrière David Racheline, qui me fait confiance avec Thierry Mariani. Donc là, je fais leur campagne. Et un soir, et le soir de la défaite, alors que souvenez-vous, 7 sondages nous donnaient gagnants dans tous les cas de figure pour cette région qui nous a été volée par Renaud Muselier qui a collectionné les étiquettes politiques comme d'autres des Pokémon. Il faut envoyer quelqu'un à la télé pour, voilà, pour accuser. Accuser le coup de la défaite. Et donc j'y vais. Et là, je leur dis que quand on fait 45% tout seul, on n'a pas perdu, vu que l'autre avait ratissé tellement large dans les fonds de tiroir. Et du coup, ça se passe plutôt bien. Moi, j'avais déjà un peu manifesté mon intérêt de faire des médias. Et voilà, ça se passe plutôt bien. Je dis que j'aimerais faire des médias. Je suscite.
Et c'est comme ça que Marine Le Pen vous repère.
Je crois même que c'est Marie-Caroline Le Pen, figurez-vous, qui m'a repéré ce soir-là sur les réseaux sociaux. Et qui en a voilà un peu parlé de fil en aiguille. Et puis j'ai été un peu briefée par Pascal Humeau qui à l'époque nous mettait aussi un peu en selle. Et puis Marine Le Pen me propose pendant la campagne présidentielle d'être porte-parole en thème en charge du handicap, parce que j'ai une jeune fille handicapée, j'ai une Philippine qui a 18 ans, qui est trisomique 21. Et du coup j'accepte évidemment d'être sa porte-parole handicap. Ça se passe bien et assez rapidement je passe sa porte-parole, porte-parole de Marine Le Pen. Pendant la campagne, on fait une campagne absolument extraordinaire. Et puis voilà, qui se termine par un mois et demi après notre élection. Et donc, je suis porte-parole du groupe parlementaire.
D'accord. Et comment est-ce que vous vous définissez politiquement? Si vous deviez simplement aligner des mots-clés qui décrirait votre engagement.
Alors moi, je suis très bavarde, hein, donc des mots, ça va être compliqué. En fait, je suis déjà issue quand même d'une famille militante, une famille qui a toujours eu le bien commun à cœur, une famille d'engagement et d'engagement pour la souveraineté nationale. Donc c'est vrai que j'ai quand même baigné là-dedans. Ça m'a toujours animée, puisque j'étais au FNJ quand j'étais plus jeune, où à l'époque, déjà, je suis retombée il n'y a pas très longtemps sur un bouquin de Samuel Maréchal qui disait « Ni droite, ni gauche, Front National ». Et je pense que c'est finalement ce que nous vivons exactement maintenant. Comment je me définis politiquement? En fait, j'aime beaucoup, pour tout vous dire, le slogan de Marine Le Pen de rendre aux Français leur pays et leur argent, c'est-à-dire s'occuper à la fois de l'enjeu civilisationnel, évidemment, auquel nous sommes confrontés, puisque quand même notre civilisation situation est bien mise à mal avec des coups de boutoir, notamment de l'islam politique en permanence, et quand même ce souci de la classe populaire, quoi, de la classe précaire qui rame. Et je pense que c'est en ça que j'ai trouvé en Marine Le Pen une famille politique qui, dans laquelle je suis très confortable, parce qu'il y a ces deux jambes qui, à mon avis, sont fondamentales dans un engagement politique. Je pense que on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a effectivement cette recherche de bien commun. La politique, c'est un peu la charité suprême. Voilà, la patrie, c'est la grande famille. Donc, quand on est attaché à la famille traditionnelle, comme je peux l'être, voilà, cette grande famille qui est la patrie, évidemment, je ne me voyais pas ne rien faire. Donc, c'est vrai que, voilà, je pense qu'il y a un peu deux dimensions. Et d'ailleurs, ces deux dimensions, on les retrouve aussi dans le mandat du parlementaire. On est là pour défendre, effectivement, la France de façon macro, la France, sa civilisation, évidemment, tout ce qui fait que nous sommes français, et aussi des petites victoires. De temps en temps, vous arrivez à faire muter un flic parce que c'est compliqué pour lui, ou vous trouvez une place pour une enfant polyhandicapée où c'était compliqué. Ben voilà, c'est un peu les deux dimensions, les deux niveaux qui sont très épanouissants quand on fait de la politique au Rassemblement national.
C'est intéressant parce que donc, vous êtes engagé depuis toujours, vous avez connu ce parti avant qu'il devienne normalisé comme aujourd'hui.
Bien sûr, ah oui.
Donc comment c'était à l'époque ?
Ah, comment c'était sportif. Oui, rien à voir. On était un peu les parias de la République, hein, parce que moi, j'ai ma première élection, j'ai fait une élection quand même. J'ai planté une maîtrise de droit parce que je faisais beaucoup les marchés. Ouais. Donc j'ai fait une élection à Bègles en 97 ou 98, je ne sais plus, au cantonal. D'accord. Je crois que j'étais la plus jeune qui se présentait. Et j'ai fait 10,33%, ce qui était déjà hallucinant. Je pense qu'ils n'en revenaient pas de voir quelqu'un un peu jeune. Bon, bref. Parce que déjà, 10%, c'était beau, quoi. Moi, j'ai quand même connu le Rassemblement national avec des scores tout petits. Mais je vois autour de moi, mes parents, les amis de mes parents, les militants qu'on voyait, personne ne lâchait quand même l'affaire, d'accord, étant persuadé qu'on était quand même dans la vérité. Et d'ailleurs, c'est ça qui est fou, c'est que 30 ans après, il y a des victoires idéologiques du Rassemblement national et même du Front national non-stop, quoi. Quand vous voyez que même sur l'immigration, tout le monde commence à faire le même constat. C'est un constat que Jean-Marie Le Pen faisait déjà il y a très longtemps. Et quand vous le disiez, c'était compliqué. Après, même le combat à la fac, c'était compliqué.
C'est-à-dire, quand vous dites sportif...
Sportif, il y avait mon nom écrit sur les murs à la fac. Je me faisais casser la gueule.
Il fallait assumer,
on vous reconnaissait. Je me souviens d'une fois, j'étais devant les résultats et j'entends quelqu'un qui dit « Ah bah tiens, la Valette n'a pas une bonne note, je suis bien contente pour elle ». Ça m'a un peu motivée pour le mois d'août où j'ai évidemment eu mon année en septembre. Mais donc c'était déjà beaucoup plus compliqué, quoi. Il y a les gens... Le climat social était notamment à la faculté politiquement très compliqué. Et puis c'était compliqué d'être au Front National.
Et à cette époque-là, jamais vous vous êtes reconnu dans le programme du RPR, de l'UMP ensuite ?
Non, mais je pense aussi qu'on est forcément un peu bien dans son milieu, je veux dire, d'éducation aussi. Moi, j'étais persuadée qu'effectivement, et je le suis toujours, non, mais je vais vous dire pourquoi non, parce que, comme à leur habitude, vous pouvez vous reconnaître un peu de temps en temps dans les idées du RPR, mais le problème, c'est que dès que ces mecs-là sont au pouvoir, ils font l'exact inverse de ce qu'ils vous ont dit. Je veux dire... Enfin, souvenez-vous, tout ce qui est arrivé, que ce soit sociétal ou que ce soit en matière d'immigration qui nous a mis dedans, la plupart du temps, ça vient de la droite, quoi. Ouais. Et Thierry Mariani en reparlait il n'y a pas très très longtemps. Dati a fait beaucoup de mal à la politique pénale. Donc, en fait, ils sortent les gros bras quand ils sont en campagne. Effectivement, ça peut être, souvenez-vous, Sarko. Enfin, on aurait pu croire à Sarkozy. Alors, moi, j'ai pas cru, mais j'ai beaucoup d'amis, évidemment, qui y ont cru. Bah, il n'empêche qu'il est rentré plus d'immigrés légaux sous Sarkozy que quand Lionel Jospin était Premier ministre. C'est le problème de cette droite-là. C'est qu'en fait, elle peut paraître attrayante, alors qu'au final, dès qu'elle est au pouvoir, elle fait l'exact inverse de ce pourquoi les gens l'ont élu. Donc, non, finalement, être cocu de la droite, ça m'a jamais
Et pourquoi est-ce que Marine Le Pen au pouvoir, elle, tiendrait ses engagements ? Est-ce qu'il y a quelque chose relatif à la Ve République ? Finalement, c'est lorsqu'on est au pouvoir, on est incapable d'agir. Et pourquoi Marine Le Pen ne serait pas concernée par cette règle ?
Eh bien, justement, parce que je pense que quand vous avez appartenu à un parti politique qui préférait perdre sur ses idées que gagner avec les idées des autres, le jour où vous êtes au pouvoir, vous avez la volonté politique de dérouler vos idées. Et ça, j'en ai aucun doute. Encore une fois, si j'avais le moindre doute, vous imaginez bien que je ne laisserais pas mon mari et mes 5 enfants, je ne viendrais pas brasser de l'air à Paris. Moi, si je suis là, c'est parce que je suis convaincue qu'une fois Marine Le Pen au pouvoir, et on va va peut-être en reparler, je pense qu'on s'approche, en plus de cet exercice du pouvoir, donc il y a une certaine gravité, je suis certaine qu'elle aura la volonté politique d'exécuter les OQTF, par exemple. Ces obligations de quitter le territoire français, je sais que ça ne sera pas que des mots, mais on engagera des bras de fer avec les pays qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. On coupera, évidemment, les visas, on coupera les transferts d'argent. Enfin, on mettra en œuvre les moyens suffisants, mais parce qu'on aura la volonté politique et peut-être aussi parce que, justement, voilà, ça fait longtemps. Nous, on a l'habitude d'être des militants, on a l'habitude de ne pas faire, de ne pas aller dans le sens du vent. Voilà, nous.
Mais d'être dans l'opposition aussi.
C'est pas. On préférait ne pas être dans l'opposition, mais je veux dire, on a quand même la carapace assez épaisse, quoi, mine de rien. Et c'est vrai que moi, je n'ai aucun doute sur le fait que. Tout ce que nous proposons, et d'ailleurs, nous proposons que des propositions que nous pourrons mettre en œuvre, parce que ça aussi, c'est pas la peine d'être grandiloquent si derrière vous vous en sortez pas. Donc c'est vrai que moi, j'ai absolument aucun doute sur le fait que nous arrivions au pouvoir et que nous améliorons considérablement la vie des Français. Après, c'est sur un temps long, hein. Il suffit pas d'accéder au pouvoir. Alors, on est dans une telle panade qu'il va falloir que ça dure quand même un peu longtemps pour essayer de redresser le pays.
Et je reviens sur ma première question. Est-ce que vous vous considérez comme conservatrice? Ou c'est un mot qui est frais.
En fait, je sais plus tellement ce que ça veut dire conservateur. Oui, je suis plutôt conservatrice. Je préfère la société. Enfin, vous voyez, j'ai passé 22 ans à m'occuper de mes enfants, donc ça peut paraître sur un modèle patriarcal. Oui, je suis beaucoup moins. Je vis moins dans un monde déconstruit que Sandrine Rousseau. Oui. Si vous voulez savoir, effectivement, donc de ce côté-là, bien sûr, mais. Je pense que la vraie question, c'est quand même un peu cette dichotomie entre les mondialistes et les souverainistes. Après, conservateur, est-ce que c'est simplement sur tout ce qui est sociétal? Ça vous a pas échappé que j'étais plutôt...
Engagé.
J'étais plutôt, voilà, engagé de parce que je suis, moi... Mais après, j'ai aucun problème, je veux dire, moi, je suis porte-parole de Marine Le Pen. Sur toutes ces questions sociétales, on a toujours eu, j'allais dire, une grande liberté de vote et de pensée. On sait que la société est tellement fracturée que, d'ailleurs, Marine Le Pen, pendant sa campagne, proposait un moratoire en disant, tout ce qui est sociétal, là on n'y touche plus, on attend un peu que les choses passent.
Donc c'est vous, c'est devenu un sujet secondaire. Enfin, secondaire, on sait qu'il y a une priorité.
Non, c'est pas secondaire, c'est que là, je pense que la France est trop fracturée maintenant, évidemment, pour remettre des sujets sociétaux. Mais ceci dit, on va bientôt y aller avec la fin de vie 1 qui va arriver à l'Assemblée nationale et ça va être effectivement. Voilà.
Et comment vous allez vous. Le groupe, comment va.
Alors, je pense que Marine Le Pen est très claire sur le suicide assisté. Elle a toujours dit que c'était. Voilà, que la vie était sacrée et que ça touchait à l'intime. Donc, c'était toujours très douloureux parce que quand vous parlez aux gens, peut-être que chacun a vécu dans sa famille des moments très difficiles d'accompagnement d'un mourant. Et voilà. Nous, on est vraiment pour un redéploiement massif des soins palliatifs, puisque globalement, quand vous ne souffrez plus, vous n'avez plus envie de mourir. C'est un peu ce qui a été oublié par les idéologues d'en face qui veulent vraiment en faire un totem et un droit à mourir dans la dignité. C'est l'inverse de la dignité, ce qu'ils veulent faire. Donc nous serons là, évidemment, en face pour redévelopper une politique publique. Il y a quand même un tiers des départements qui n'a pas de soins palliatifs, ce qui paraît complètement... aberrant. Donc voilà, après on aura une liberté de vote, vous savez, le Rassemblement National, ça ressemble aussi à la France, donc dire dans son entièreté, et il peut y arriver sur ces sujets sociétaux que nous ayons certaines différences.
Il y a quelque chose qui revient quasi systématiquement vous concernant, c'est que vous assistez le dimanche à la messe en latin.
Dingue.
C'est même dans votre bio Wikipédia.
Ouais, c'est pas moi qui l'ai écrite, la bio Wikipédia, donc parce que j'aurais écrit les choses un peu différemment, je pense. Mais oui, je vais à la messe, j'aime le rite tridentin.
Pourquoi, à votre avis, ça intéresse tant les médias de gauche?
Ah, parce qu'ils essayent de me caricaturer un peu en disant « Ah là là !» Mais bon, ça, j'avoue que ça glisse un peu comme sur les plumes du canard. J'aime la messe de rite tridentin, voilà. Enfin, je ne fais pas des kilomètres pour y aller non plus. Oui. S'il y a la messe à côté, j'ai pas de problème. Après, j'ai été élevé aussi là-dedans. C'est ce rite, d'ailleurs, ça renvoie un peu au bouquin de Mabrouk, de Sonia Mabrouk, qui parle du sacré. Ouais. Et qui, effectivement, dit que cette liturgie traditionnelle, tourner dos au peuple vers... moi je m'y retrouve plus. Après, chacun fait comme il veut et je suis pas du tout dogmatique en la matière. Moi, c'est ma façon dans laquelle je me sens le mieux pour pratiquer ma foi.
D'ailleurs, donc, le livre de Sonia Mabrouk s'intitule Reconquérir le sacré. Est-ce que vous aussi vous considérez qu'en France il manque un facteur religieux, mais même au-delà de la religion, quelque chose de transcendant.
Oui, c'est sûr, bien sûr qu'il manque. Et puis vous avez bien vu que la nature avait horreur du vide, donc sinon on ne tient pas nos positions, il n'y a qu'à voir l'essor de l'islam politique en France. C'est évidemment parce que on a un peu laissé tomber ce sacré. Ben, quand ça fait 40 ans que méthodiquement toutes les strates, que ça soit l'école, essayent de déconstruire exactement ce que vous êtes, votre roman national, vous en arrivez à des gamins qui vont taguer sur nos monuments aux morts le nom de leur mort. Donc vous voyez le fossé dans lequel on est, et ça c'est évidemment, personne avant n'aurait pu oser imaginer toucher un monument aux morts, quoi. Donc ce sacré, il est partout, mais vous savez, je pense qu'Emmanuel Macron a désacralisé complètement sa fonction. Entre McFly et Carlito qui font des galipettes sur les pelouses de l'Élysée, entre les fêtes de la musique complètement barrées qu'il a pu faire en juin... il n'a de cesse, je pense, effectivement, de désacraliser. Et malheureusement, ça abîme la fonction, ça abîme aussi la République et ça abîme la confiance que les Français ont, évidemment, dans leur politique. Donc à nous aussi de reconquérir tout ça.
Et est-ce que la République est quelque chose de transcendant ?
La République, en tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour arriver là à gouverner. Transcendant... Vous savez, je pense que...
Parce que si, la question sous-jacente, ou plutôt le propos sous-jacent, c'est de dire qu'en politique, aujourd'hui, on parle plus de la République que de la France. Mm-mm. Donc je vous pose la question, est-ce que vous considérez que la République est quelque chose qui peut vraiment transcender...
Non, mais je pense que pour l'instant, la République, voilà, c'est encore une fois... c'est plus compliqué que ça, parce que la République est laïque, mais la France est terre chrétienne. Donc vous voyez bien qu'il y a... Et puis la France a 2000 ans. Enfin, je veux dire, on a une tradition judéo-chrétienne qui est bien plus importante que ce qu'on veut nous faire croire. Et d'ailleurs, c'est très intéressant quand on voit le vocabulaire, la sémantique qui est utilisée par les gens de LFI. C'est même pas la Révolution française dont ils parlent, c'est carrément de la terreur. C'est de 93 dont ils parlent. C'est assez hallucinant. Donc là, on voit bien encore deux France qui peuvent s'affronter. Nous, on renie pas les rois qui ont fait la France, ce grand héritage, évidemment. Et ce qu'on aime, c'est que dans nos villages, il y ait une église, une poste, un notaire. On aime bien quand même ce côté assez traditionnel. Après, je pense que sans transcendance de la République, il y avait quand même des valeurs, ne serait-ce que le respect du professeur, le respect qui, ça apporte une petite... transcendance quand même, je veux dire, ils avaient beau être laïcs, ça pouvait être les hussards noirs de la République, mais il n'empêche que l'instituteur, il y avait ce respect qu'on pouvait retrouver dans les forces de l'ordre. Voilà, là, tout est tellement à plat que là, il n'y a plus rien de transcendant du tout, à part, voilà, ce qui nous anime, évidemment, c'est de remettre la France en état, ouais, qu'elle retrouve cette place qu'elle a toujours eue, quand même, de grande puissance au sein du monde, et on voit bien que là, ça patauge.
Bien sûr. Je reviens sur votre foi. Il y a un procès idéologique qu'on fait régulièrement aux politiques, aux sympathisants de droite, c'est de manquer de charité, notamment envers les migrants, et le fait d'être incohérent avec certaines valeurs prônées, en particulier par l'Église. Comment vous, vous répondez à cette accusation ? Par quelle démonstration vous expliquez à vos adversaires
Je suis hyper à l'aise. Je suis hyper à l'aise, puis il suffit d'écouter le cardinal Sarah, par exemple, qui en parle très bien, qui dit que finalement, on a vocation, l'homme a vocation à s'épanouir à l'endroit où il est né, et qu'effectivement, ce déracinement n'est pas bon. Et puis, vous pouvez reprendre saint Augustin qui dit, alors j'ai plus la phrase exactement en mémoire, qui dit, mais dans la mesure où on ne peut pas s'occuper du monde entier, on a le devoir de s'occuper d'abord de celui qui est le plus proche de vous, que ce soit par une temporalité ou simplement parce que physiquement, il est plus proche. Et effectivement, je pense que la première des charités, c'est de s'occuper de son peuple. Et donc, j'ai aucun scrupule, aucun mal. Et à mon avis, et encore une fois, je pense que quand le pape vous exhorte à une charité personnelle, je pense qu'il est tout à fait dans son rôle. Mais quand il parle au pays, justement, sur la crise migratoire, je pense qu'il se plante complètement. Il y a quand même ce côté, rendre à César ce qui lui appartient. Il y a une laïcité, pour le coup, aussi, où lui, c'est très bien qu'il s'occupe de la foi. Mais je pense qu'il est absolument pas... Il sort complètement, à mon avis, de son rôle quand il dit ça. Et en plus, je pense que c'est pas bien, quoi. Parce que je pense qu'il y a qu'à voir cette mondialisation sauvage, cette... qui se traduit aussi par, évidemment, des flux migratoires complètement inconsidérés. On voit bien les gens qui se mettent en péril pour traverser la mer et arriver sur nos côtes. Enfin, on voit bien à quel point ça n'est pas ordonné, à quel point c'est dérégulé. Donc, je pense qu'effectivement, on s'occupe d'abord de ceux qui sont proches. Mmh. Et je vous dis, Saint-Augustin en parlait déjà, donc je pense que c'est pas mal. On a quand même on a une bonne caution. Et encore une fois, le cardinal Sarah explique très bien aussi, notamment sur l'Afrique. Il y a un vrai souci quand vous voyez, on est en train de dépouiller l'Afrique de ses médecins africains, ça veut dire qu'il n'y a plus de médecins là-bas. Enfin, ça pose des vraies questions. Et encore une fois, on a vocation à s'épanouir, je pense, sur le sol qui vous a vu naître. Il n'y a qu'à voir Ulysse, regardez. Souvenez-vous, il n'a de cesse que de rentrer en son pays.
Il y a autre chose qui vous singularise, et vous l'avez cité tout à l'heure, c'est que vous êtes une mère de famille de 5 enfants. Quelle plus-value ça apporte en politique que d'avoir des enfants ?
Ah bah c'est énorme, et d'ailleurs c'est une vraie question que vous posez là, parce que les gens qui nous dirigent globalement n'en ont pas. Emmanuel Macron n'a pas d'enfant, il n'est pas enraciné, il fut un temps, je me souviens, où Juncker n'a pas d'enfant, enfin il fut un temps où quand on prenait les dirigeants au niveau de l'Europe, on pouvait en citer 10 qui n'avaient pas d'enfant. Ça change tout en fait, déjà parce que vous avez un enracinement, que finalement transmettre la vie, c'est quand même un peu ce qu'il y a de, c'est un peu un cliché, mais c'est quand même un peu ce qu'il y a de plus beau, cet héritage, de le continuer, et puis ça vous permet d'être ancré, d'avoir les pieds sur terre. Moi, je peux vous dire que j'en suis à mon 3e parcours sup, je peux vous expliquer pourquoi c'est de la daube. Parce que concrètement, je sais que ça fonctionne mal, que c'est générateur de stress énorme pour les enfants. Non, parce que cet algorithme, votre enfant est noyé dans un algorithme qui est complètement incompréhensible. En plus, si par malheur, il a été dans le privé, il va être un peu décoté parce qu'il faudrait qu'il ait les mêmes chances que celui qui n'était pas... Typiquement, j'ai une fille qui était dans privé au moment du Covid, et l'école avait tout mis en œuvre pour qu'il y ait encore des cours, ce qui était quand même vachement bien, mais du coup ils ont dû être pénalisés parce que d'autres n'avaient pas eu cours. Donc vous voyez un peu, c'est complètement ubuesque. Donc Parcoursup, c'est un peu de la daube. J'ai une jeune fille handicapée, je peux vous dire qu'il y a 6 mois d'attente dans les dossiers à la maison départementale des personnes handicapées, et quand vous vivez tout ça, eh ben ça parle aux gens en fait de partager leur quotidien. Moi, j'ai fait mon plein de courses vendredi, je sais exactement ce que ça coûte, et je pense que de partager les tracas du quotidien, et je pense que c'est un peu ce qui a fait mon authenticité en fait. Les gens se sont dit tiens, et alors comment... quand elle nous parle en fait, on se dit qu'elle vit la même chose que nous, et je pense que c'est chouette.
Et pour revenir sur la famille, comment est-ce que cette thématique là et puis celle de la natalité aussi intègre le programme politique du RN?
Il l'intègre fortement, et d'ailleurs vous l'avez bien vu pendant les retraites, nous avons été les seuls à mettre la démographie sur la table, et vous avez vu les cris d'orfraie, Sandrine Rousseau disant « laissez nos utérus », quoi. Non, on rêve, alors que c'est même pas moi, c'est Bayrou qui disait que notre système de retraite ne fonctionnait que s'il y avait une industrialisation évidemment du pays importante, une productivité et évidemment une démographie. Il n'est évidemment pas question de forcer les gens à avoir une famille, mais il est question de les mettre en situation de pouvoir, sans crainte du lendemain, avec des allocations, avec... je me souviens, on avait une histoire de prêt qui devait être adossé à un autre prêt, mais qui aurait pu être bonifié, c'est-à-dire qu'on donnait ces 100 000 euros à partir du 3e enfant. C'est quelque chose qui peut être évidemment incitatif, que le 2e enfant soit une part fiscale pleine. Ça change quand même évidemment votre feuille d'impôt. Voilà, pour que les Français, en confiance, refassent les enfants dont ils ont envie, en fait.
Après les récentes émeutes, est-ce que vous trouvez qu'on parle suffisamment de l'autorité parentale? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents dont les enfants étaient impliqués dans des pillages, etc.? Est-ce qu'il y a un débat de société qui doit se monter autour de ça?
Déjà, évidemment qu'il y a un débat de société. Et puis, tout à l'heure, je vous parlais de victoire idéologique du RN. Mais enfin, ça fait longtemps qu'au Front National et au Rassemblement National, on dit qu'il va falloir toucher ces familles-là aussi au portefeuille. Et évidemment, en cas de récidive, ne plus donner d'allocation. Je veux dire, il y a un moment où c'est pas la communauté nationale de payer pour des parents qui peuvent être défaillants. Parce qu'encore une fois, quand vous avez des gamins de 13-14 ans qui sont dehors, c'est pas normal. Après, le problème étant que maintenant, dans ces quartiers, en fait, à 13-14 ans, vous ramenez aussi de l'argent qui, finalement, arrange bien vos familles parce que les gens ont besoin de sous. Et donc, il y a toute cette histoire, évidemment, aussi de trafic de drogue auquel il faudra essayer de mettre des coups de boutoir. Voilà, et de réordonner ces quartiers et de donner à ces parents-là qui sont défaillants, parce que là on parle de parents défaillants, mais il y a aussi plein de parents qui vivent dans ces quartiers, même des mères célibataires, parce que souvent on dit oui les mères sont seules, mais il y a des mères célibataires heureusement qui élèvent très bien leurs enfants. Donc il faudra un débat de société, mais je veux dire dans son entièreté, ça va pas suffire de simplement parler de la responsabilisation des parents, elle est évidente, mais ce que je vous disais, il faut se poser la question aussi, comment est-ce qu'on en arrive à ce qu'un gamin de 17 ans face à un refus d'obtempérer, alors qu'il a deux flics en face, qu'il est tenue en joue et qui se dit c'est pas grave, ça va passer crème. Il y a un vrai souci quand même. On est dans une société qui n'est plus ordonnée, parce qu'une société ordonnée, c'est une société où il y a une peur légitime du gendarme, et même pas une peur, mais un respect du gendarme, du pompier, des gens qui vous protègent. Et on voit bien que dans ces quartiers-là, c'est plus du tout ordonné et plus personne n'a peur de rien.
Et après ces récents événements, pour vous, quel est le grand chantier qui doit s'ouvrir sur la...
Le grand chantier, c'est déjà de se dire qu'il y a quand même effectivement dans ces quartiers des gens qui sont français mais qui ne se sentent pas français. Après, encore une fois, ça fait 40 ans, nous, qu'on dit que ça arrive. Donc quand Macron dit qui aurait pu penser que ça, que ça arrive, mais pour le coup, ma famille politique est quand même précurseur. Il y a 40 ans, on en parlait déjà. On savait très bien que ces afflux massifs de population feraient qu'à un moment, on a du mal à faire nation, comme ils disent. Ces gens-là ne se sentent pas français. Et encore une fois, je pense que le monument aux morts qui a été tagué avec les prénoms de Naël et Traoré, ça révèle ça, ça révèle quand même ces deux France. Alors il va falloir, quand on va arriver au pouvoir, ils seront là. Donc c'est sûr que c'est des vraies questions. Comment est-ce qu'on va arriver à gérer ça? Moi je pense qu'effectivement il faut sortir de ce laxisme, de la culture de l'excuse. Je vous rappelle que ces quartiers, c'est plus de 98 milliards en 40 ans. C'est juste colossal. Et que quand il dégrade un gymnase, c'est parce que d'abord, ce gymnase, il a été construit avec votre argent, avec mes sous. Donc, ces infrastructures, elles sont là. Donc, on va arrêter la culture de l'excuse. Leurs classes sont dédoublées. Allez voir au fin fond de la Creuse. Je peux vous assurer que les classes ne sont pas dédoublées. Donc, les moyens ont été mis. On voit que ça n'a pas fonctionné. Donc, je pense qu'il faut effectivement mettre fin à cette immigration massive complètement dérégulée à partir de maintenant et s'occuper, j'allais dire, de ces quartiers-là avec la fin de laxisme, une grande fermeté, évidemment. Mais on voyait un pédopsychiatre Maurice Berger dire il faut que ces jeunes des quartiers savent, et une triple certitude, il faut qu'ils sachent qu'ils vont être attrapés, qu'une peine va être prononcée et que cette peine-là, elle soit exécutée. Et que cette peine-là, elle soit exécutée tout de suite aussi. Et Marine Le Pen demande, et c'est drôle parce que du coup, il vient sur le même terrain, demande à ce qu'il y ait des peines de prison, mais tout de suite, et peut-être des petites peines de prison, 15 jours, mais tout de suite, si vous voulez, pour qu'il y ait un signal fort qui soit envoyé, qu'on arrête ce laxisme, et qu'enfin, les gens qui vivent dans ces quartiers, les honnêtes gens puissent vivre correctement, parce que la vraie question, elle est là aussi. J'ai été assez marquée, moi, j'ai tourné avec la police nationale à Toulon il y a un mois et demi. Donc à un moment, ils interpellent des consommateurs de drogue avec probablement ce qui étaient les dealers. Et là, il y a une porte qui s'ouvre et quatre gamins qui partent habillés en karaté et qui disent bonjour monsieur. Et je me dis, mais c'est quand même très particulier. Il y a des gens qui vivent, qui ont envie de vivre très sereinement et qui sont dont la vie est pourrie aussi par tous ces trafics.
Et donc pour ces personnes qui restent, qu'est-ce que vous préconisez pour refaire du lien?
Refaire du lien, ça va aussi passer par l'école. Bien sûr.
Vous êtes pour l'uniforme à l'école?
Oui, on a fait une proposition de loi. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'encore une fois, on a proposé ça le 12 janvier. Cette loi n'est pas passée. Et je retrouve sur un plateau quelqu'un de la majorité dire « Oui, quand même, l'uniforme à l'école, ça aurait de l'intérêt. » Mais on a envie de leur dire « Mais c'est pas possible, vous foutez de nous. »
Une fois qu'ils souscrivent...
Il fallait la voter, la loi. Enfin, je veux dire, non, moi, je suis pas... Il faut des actes, quoi. L'uniforme à l'école, ça a évidemment plein d'effets positifs. Déjà, il y a moins de discrimination. On ne voit pas les marques avec lesquelles vous êtes fringués, ce qui va permettre aux parents de faire 2-3 économies. Et vous avez un sentiment d'appartenance aussi à une équipe, un peu comme un joueur de foot, quoi. Bon, là, c'est pour aller travailler, mais il y a le nom de votre établissement, enfin, évidemment. Et puis ça gomme et ça permet aussi de ne pas avoir d'abaya, par exemple. Ça permet aussi quand même de mettre un frein à tous et encore ces tentatives d'incursion de l'islam politique à l'école. Donc il y avait un triple effet qui se coule de cet uniforme. Malheureusement, la loi n'est pas passée, mais évidemment, nous sommes entièrement pour.
Et au-delà de l'éducation ?
Et je vais juste continuer aussi un peu sur l'éducation. Je pense qu'il y a eu un mal qui a été fait quand même ces 40 dernières années de façon phénoménale. Moi, je suis de 76, mais quand j'ai passé mon bac français, tout le monde préparait les mêmes textes pratiquement en France. On faisait Aurélia de Nerval, Le Grand Maulne de Fournier. Enfin, tout ça, ça participe aussi au roman national quand vous avez travaillé sur les mêmes œuvres. Et je pense que cette unité de programme qui a été complètement mise à mal plus tard, je crois, c'était avant François Hollande même, ou peut-être sous François Hollande, il faudrait que je regarde, mais je pense que tout ça, ça participe à ne plus faire en sorte que ces gens-là se sentent français. Puis il va falloir arrêter, évidemment, de s'excuser. Non, en fait, il faut tous les pans importants, que ce soit la justice, l'éducation. change. Et mais bon, c'est pas nouveau, ça, c'est quelque chose, encore une fois, dont nous parlons depuis 40 ans.
Et supposons que Marine Le Pen remporte la prochaine élection présidentielle. 5 ans, ça vous semble pas délirant comme période pour comment dire, répondre à tous ces défis que vous venez de présenter?
Il faudrait qu'il y ait plusieurs fois 5 ans. Il faudrait qu'il y ait plusieurs fois 5 ans. Mais d'ailleurs, on se prépare à gouverner sur un temps long. Bien sûr, en 5 ans, vous n'arrivez pas à tout faire passer. Après, je pense qu'il y a des mesures phares, notamment sur le laxisme judiciaire. Ça, quand même, tout de suite, vous pouvez mettre un frein. Mais après, c'est sûr, je suis d'accord avec vous. Et c'est en ça que la tâche est quand même colossale, que plus on approche quand même de l'exercice du pouvoir et plus il y a une gravité. Je veux dire, on est tous quand même, je sais pas, ça vous est peut-être pas échappé, mais on travaille beaucoup, on se spécialise, on se professionnalise, parce qu'on sait, on voit la gageure de ce qui nous attend. Mais dans tous les domaines, hein, là, demain, je rends un rapport sur une mission flash sur les maladies neurodégénératives. Je veux dire, ne serait-ce que sur comment aider les familles, la notion d'aidant, des médicaments qui ont été déremboursés pour Alzheimer, enfin des trucs, on se dit, mais en fait, le chantier est colossal. Après, on est nombreux, plein de bonne volonté, et avec cette volonté d'améliorer le quotidien des Français. Je pense que quand Marine Le Pen dit que sa seule boussole, c'est l'intérêt des Français, c'est quelque chose qui nous anime tous, donc on aura volonté de bien faire, mais vous avez raison, je pense que 5 ans, ça sera pas suffisant, il faut évidemment un temps long.
Et est-ce qu'à l'heure où on se parle, vous qui êtes une engagée de longue date, vous considérez que le RN vit son âge d'or ?
Alors, ce qui est certain quand même, c'est que le 19 juin de l'année dernière a été un bol d'air, quoi. Et que je trouve qu'on a lavé l'affront de ces périodes difficiles où, pour le coup, vous le disiez, moi, j'ai vécu plus de dimanche soir un peu tristoune. Ouais, évidemment.
C'est la première vraie victoire.
Ah bah oui, et c'est ce qui a fait en soi. Moi, j'étais très heureuse. Bon, à titre personnel, j'avais gagné une bataille. Mais en fait, ma vraie joie, moi, elle a été pour ma famille politique dans son ensemble et pour la France aussi, parce que l'Assemblée nationale, du coup, ressemblait un peu à la France. Souvenez-vous, Marine Le Pen faisait quand même 11 millions d'électeurs en 2017 et n'avait que 6 députés. C'est quand même juste un scandale démocratique sans précédent. Donc il y a eu cette joie énorme, et évidemment pour la vieille militante que je suis, pour ma famille politique. Encore plus qu'une joie personnelle.
Est-ce que vous croyez en l'union des droites ?
Alors je crois en l'union des souverainistes, de tous ceux qui ont envie d'améliorer, mais je pense que c'est petit bras, l'union des droites. D'accord. Voilà. Je pense qu'on a besoin de tout le monde. Et je vous disais tout à l'heure, quand le titre du livre de Samuel Maréchal, « Ni droite, ni gauche, Front National », je pense que c'est aussi ça. C'est sur l'échiquier politique. Il faut que tous ceux qui veulent aller dans ce sens-là, c'était, souvenez-vous, au début, le slogan de Marine Le Pen, de Montebourg à Zemmour, il n'y a pas tout le monde à sa place, évidemment. Donc je pense que ça va plus loin que l'union des droites. Et puis encore une fois, l'union de quelle droite ? Si c'est pour l'union des droites voilà, qui nous a trahis tant que ça depuis 30 ans, voilà, moi je les vois bien. Vous savez, je suis juste à côté, dans l'hémicycle, à côté, je suis dans la travée à côté de mes camarades LR. Il y en a avec qui j'ai pas du tout envie de faire l'union des droites, hein, qui se couchent systématiquement.
Les Républicains non plus, a priori, n'ont pas l'intention de...
Bah, une partie des Républicains est mal à l'aise quand même, hein. Et vous savez, ils se posent quand même la question. Je pense qu'ils votent jamais de la même façon. Ils ont aucun leadership et il y a pas ouais, leurs votes sont jamais c'est hyper rarement unanime, pour tout vous dire. Donc je pense qu'il y a une partie des Républicains qui est un peu Macron compatible et une autre partie des Républicains qui serait plutôt RN compatible. Après, le temps dira ce qu'ils feront, mais il y a déjà pas mal de LR jeunes, vous savez, en Bretagne, je crois, il y a plusieurs sections qui ont démissionné des LR pour venir chez les RN. Et je pense qu'effectivement, si on est souverainiste, patriote à l'heure actuelle, le RN est la famille politique qui promet une espérance, un espoir.
Mais vous considérez pas avoir besoin du bloc bourgeois ? Parce que quand on parle de l'union des droites, on parle d'un bloc bourgeois, d'un bloc populaire qui s'unissent pour former le camp.
Vous savez, pour gagner, il faut faire 50% et une voix. Donc on a évidemment besoin de tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est évident. Je vous vois venir avec cette histoire un peu de vote des classes, où pour vous, Zemmour, c'est plutôt le vote bourgeois, LR, Zemmour, LR, plutôt bourgeois, et nous, plutôt populaire. Moi, je pense qu'on a vraiment de tout. Hein. Je pense qu'il faut élargir ce socle, parce qu'encore une fois, pour gagner, il faut faire 50% et une voix. Donc c'est pas rien. Et toute... Enfin, je veux dire, d'ailleurs, c'est en train de changer, ça, parce qu'il y a quand même une porosité maintenant, quand même, dans cet électorat. Aussi parce que je pense que cette année à l'Assemblée a été une formidable vitrine pour nous, de voir qu'on était sur tous les fronts, qu'on était compétents, que nos deux vice-présidents étaient des très bons vice-présidents. Donc je pense que ça a donné une crédibilité aussi que peut-être attendait ce bloc bourgeois dont vous parliez et qui, de temps en temps, il faut le dire, n'a pas envie de voter comme sa femme de ménage, quoi. Il y a quand même un petit côté... vous avez raison, bourgeois, mais bon, je pense que il faut aller dans le sens du peuple, quoi. Il faut 50% à une voix, je vous dis. Il faut vraiment rassembler très largement. Ouais.
Et pour revenir sur ce que vous disiez à propos de là, cette expérience à l'Assemblée, ce groupe parlementaire, etc., est-ce qu'au final, en 2022, toutes les conditions étaient vraiment réunies pour que Marine Le Pen accède au pouvoir? Ou, au final... c'est tant mieux, vous allez gagner 5 ans.
Moi, je pense que ça aurait été mieux parce qu'on aurait gagné 5 ans quand même. La France aurait gagné 5 ans. On aurait eu envie de réindustrialiser le pays, de mettre fin à cette immigration massive. Et 5 ans en termes d'immigration, c'est pas rien. Je veux dire, c'est même.
Mais avec qui,
c'est même beaucoup. Vous savez, quand on gagne, on agrège. Déjà, je pense qu'il y avait des gens tout à fait compétents pour former un gouvernement, dans mes collègues.
Je ne dis pas le contraire, ouais. Simplement, peut-être, vous créez aussi, c'est ce que vous disiez,
une vitrine. Des conditions, bien sûr. Et d'ailleurs, c'était scandaleux de ne pas l'avoir avant, cette vitrine. Et effectivement, je pense que, en tout cas, c'est tout l'enjeu aussi de ce que nous faisons, c'est de montrer aux Français que ça fonctionne. Mais vous savez, ça fonctionne déjà dans les mairies. Quand vous voyez David Rachline à Fréjus qui est réélu dès le premier tour, quand vous voyez Louis Alliot, ça se passe très bien, quand vous voyez... Les maires RN sont réélus. Donc ça veut dire que la gestion RN, l'essayer, c'est l'adopter. Donc il n'y a pas de raison qu'au niveau national, évidemment, ça ne se passe pas de la même façon. Mais vous avez raison. Je pense que l'année qu'on passe, que l'on vient de passer, a été une vitrine formidable. Pour montrer qu'on avait des gens compétents. Là, en ce moment, il y a eu le projet de loi de justice. On a des avocats qui sont, je pense à Pascal Borde, à Philippe Schreck, qui sont tout à fait compétents et très bons dans la manière de mener les débats. Et effectivement, peut-être que c'est un peu ce qui manquait.
Et ma dernière question sera, est-ce que vous êtes confiante? Et pour vous, d'un point de vue politique, politicien, et pour la France en général? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à faire du fatalisme presque. Ouais. Est-ce que vous êtes optimiste?
Alors moi, je suis déjà de nature assez optimiste. Ma maman pourrait vous le dire. Je suis plutôt toujours optimiste. Mais ceci dit, il y a des vrais signes quand même. Au niveau européen, même quand vous voyez quand même des peuples qui ont envie de disposer d'eux-mêmes, on voit bien qu'il y a un réveil des peuples. Et puis... au niveau national, je veux dire, on ne peut être que confiant parce que sinon, déjà, c'est la désespérance quand on voit la situation de la France. Et puis, tous les gens que moi, que je vois sur les marchés, alors vous allez dire, le Var est patriote. Certes, nous avons gagné 7 circonscriptions sur 8, donc on est effectivement un peu à la maison en terrain conquis. Mais je pense que les Français voient bien qu'il n'y a pas de fatalité et que tout ce qui arrive là, c'est parce qu'il y a eu des mauvais choix politiques. Et ne serait-ce que la réforme des retraites ou ne serait-ce que les émeutes, c'est évidemment... la conséquence de choix politiques. Et moi, je leur dis, et ils le savent, maintenant, je pense qu'ils ont bien compris qu'un bulletin de vote, ça change tout, en fait. Le bulletin de vote, c'est un signe d'espoir évident. Moi, je pense que nous apportons une alternative et une espérance forte. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. On est le premier groupe d'opposition. Les gens, en tout cas, on représente... Alors, évidemment, les gens qui viennent me parler, souvent, sont plutôt... favorable, mais on représente quand même un espoir énorme, et c'est aussi ça qui oblige et qui met une certaine gravité. Hein. Il n'est pas question d'arriver au pouvoir et de pas y arriver, quoi. Après, il faut évidemment, ce que je vous disais, ça oblige. Non, évidemment, que je suis optimiste. Je pense qu'il y a plein de prémices, beaucoup de signes annonciateurs de la victoire de Marine Le Pen en 2027.
Merci beaucoup.
Merci à vous,
Antoine.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.